affabulé.
C'est ça. Affabulé. Affabulé.
Deux F.
わかりますよ、ジャンヌ。
Sounds like they were very happy.
Yes, they were.
もうどれぐらいこの列車に乗っているのか忘れてしまった。
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour D'étoiles plein les yeux, votre magazine de cinéma sur Transistor. Cette semaine, c'est du côté des Éternels de Jazanké que nous nous tournerons et puis nous irons voir également le festival des reflets du cinéma ibérique et latino-américain organisé par le cinéma Le Zola. Ça sera en deuxième partie d'émission. Mais tout de suite, la toile, c'est donc Les Éternels, Ash is Purest White dans son titre original. Les yeux, ce sont ceux de Maë et Félix. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Rémi.
Quand
我不是江湖上的人，现在你就是江湖上的人。
我再问你一次，谁的枪？我的。
Voilà, vous venez d'entendre la première partie d'une bande-annonce qui revient aussi sur la première partie de ce film en 2001 où la jeune Kiao est amoureuse de Bin, petit chef de la pègre locale dans la ville de Datong en Chine. Et donc un drame survient après un premier tiers de film, on entend ces coups de feu. Et les deux amants vont se retrouver séparés. C'est ce personnage de Kiao donc qu'on va suivre à travers trois époques en fait qui vont se succéder. On la retrouve également en 2006 où elle retrouve Bing et puis où elle comprend qu'il lui est perdu avant des retrouvailles finalement vers 2015-16, dites-moi si je me trompe.
Ça doit être ça. Hein.
Voilà, c'est ce personnage, donc on démarre dans la pègre chinoise et puis petit à petit par touche comme ça, on voit la Chine évoluer, ce personnage traverser les 20 dernières années de l'histoire chinoise pour ce film qui est donc le portrait d'un beau personnage, mais aussi celui d'un pays en pleine mutation. J'essaie de résumer de façon un petit peu synthétique un film riche, mais tout de suite, je me tourne vers vous. Maë, Félix, qu'est-ce que vous avez pensé de ces Éternels ?
Je t'en prie, Félix.
Battez-vous.
Alors évidemment, c'est toujours un film, des films magnifiques que nous offre Jazanké, avec toujours ce contexte, ce sous-texte social très très puissante, très très marquée, avec cette force qu'il a de produire, on va dire, un film de critique sociale, mais qui ne soit pas une critique par le haut, une critique des institutions, mais qui parte des individus, des petites gens. Et de ce point de vue-là, c'est un film très très réussi. Même si, pour ma part, j'ai eu, on va pas dire quelques déceptions, mais j'aurais aimé un peu plus d'innovation esthétique, parce qu'il nous avait beaucoup habitués dans les films précédents à vraiment des sortes de fulgurances esthétiques. Je pense au dernier film, Par-delà les montagnes, où on avait ces trois périodes dans le temps qui étaient filmées avec trois caméras différentes, avec de la pellicule, puis des numériques, puis du numérique en extrême qualité, qui vraiment sublimait le film. Et là, je trouve qu'il y a un peu moins d'innovation de ce point de vue-là.
Mais...
Oh, moi, comme d'habitude, j'ai pas vu les derniers films, donc je ne pourrais pas faire de comparaison dans son cinéma.
Tu ne vivras que de plus beaux moments lorsque tu auras la chance de les voir.
Voilà. Ouais, en fait, pendant 2h30, on suit ce personnage-là. On le suit de manière très proche, finalement. On est coincé avec elle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé, en fait. On la suit dans sa période de... heureuse, quoi, on va dire. Puis on assiste à sa chute qui survient d'un coup, comme le disait Rémi, avec ses coups de feu qui sont tirés. Et oui, on voit tout. On voit la Chine, en fait, à travers ses... En fait, je sais pas si on voit à travers ses yeux à elle, j'allais dire ça, mais Non, on le voit à travers la caméra, elle, on la suit, et je suis pas sûre qu'elle porte le même regard que la caméra sur le monde qui l'entoure. Mais c'est sûr que, voilà, ce qui en ressort, c'est une sorte de grande...
T'as l'air un peu dubitative.
Je suis dubitative, j'allais dire mélancolie, mais en fait, je veux pas utiliser ce mot-là. Donc en fait, je sais pas.
Mais alors parlons justement de... Enfin, on a un peu tout et rien dit du cinéma jazz-anglais quand on dit qu'il s'attache justement à la critique de Libé parle d'un nouveau roman national, il y a quelque chose de ça, d'essayer de d'écrire une histoire contemporaine par le bas de son pays et de dessiner la trajectoire d'un pays à travers la trajectoire de ses personnages, parce que finalement le personnage incarné par Cao Tao ici et qui est un peu dans la suite du personnage, ou en tout cas un miroir de celui qu'elle incarnait dans Au-delà des montagnes, c'est peut-être tout simplement la Chine elle-même qui est marqué par le temps, par l'histoire, par cette modernité galopante et qui finit par prendre le dessus de cette modernité, mais en garde aussi des séquelles irréparables. Et voilà, il y a quelque chose de magnifique dans la délicatesse avec laquelle il arrive, comme tu disais Félix, à tenir un propos aussi vaste. À partir de détails aussi microscopiques et en creusant vraiment jusqu'au dernier détail de ce personnage, il y a cette scène très très belle où d'un coup on a la tentation du rêve qui apparaît au milieu du film. Et là, pour le coup, je trouve qu'il y a quelque chose d'une magnifique innovation scénaristique, dans le sens où cette scène est complètement gratuite, ne s'attache à rien.
Celle du train,
puis de l'OVNI. Et y a quelque chose vraiment d'un portrait tout en finesse, du refus du discours très académique qu'on pourrait attendre, et je trouve qu'il arrive à toujours se renouveler dans cette peinture-là, film après film. On sent aussi, film après film, les années qui passent et certaines illusions peut-être remplacées par d'autres aussi. De temps en temps, des plans extrêmement éloquent, je pense à ce personnage à la fin du film qui promène ses espoirs déçus dans un fauteuil roulant au milieu d'un immense stade en construction, et on a juste ces deux petites fourmis brinque-ballantes qui avancent lentement au milieu d'une espèce des arcades en béton inachevées, comme si elles étaient inachevées pour l'éternité, mais jamais c'est pontifiant, et c'est toujours très très beau et très très pudique. Je trouve
pudique et souvent très subtil. Il y a pas du tout, c'est pas du tout un, c'est, encore une fois avec ce film, c'est pas du tout un cinéma qui cherche à nous faire nous apitoyer sur le sort des gens, peu importe leurs conditions, peu importe leur misère. Et ça rejoint ce que tu disais, Maï, sur le point de vue. Finalement, de quel point de vue on suit? On suit toujours le point de vue du cinéaste, et il adopte jamais, on va dire, un point de vue global sur ce qui est en train de se passer.
C'est sûr qu'on s'attache peu aux personnages.
Elle
est dure.
Que... Elle aussi. Elle est... Oui, elle est pas si attachante que ça.
Non, et pourtant, elle pourrait. Elle en a tout le potentiel, je trouve, mais c'est vrai que la caméra ne nous fait pas nous attacher à elle. C'est juste qu'on la suit, on est coincé avec elle, on est aussi désabusé qu'elle, je trouve, au bout d'un moment. En fait, on est coincé dans ce film, un peu comme peut-être la Chine est coincée dans le cours du temps, quoi. Non, c'est vrai. Non.
Oui, mais et tu parles de mélancolie, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'une mélancolie, et c'est là où il y a quand même une tu parlais, Félix, du travail de Jiazhenke sur les images, les cadres, etc. Lorsqu'il réutilise tout au long du film des rushs de précédents films, le film lui-même d'ailleurs est une variation sur deux personnages d'un film tourné il y a longtemps, et entre autres toute la partie centrale du film autour donc du chantier du barrage des Trois Gorges, où s'intercalent tout le long du film des rushs qui ont été tournés à l'époque avant que tout ce paysage soit englouti, et quand même porteur d'une espèce de mélancolie devant la fuite en avant permanente de ce pays. Il y a quelque chose de ça, je trouve. Et sur ce que tu disais, Maëlle, cette question du point de vue, on est presque dans le point de vue du paysage, quelque part, qui est traversé par ces trains en permanence tout le long du film, comme ces trains qui vont toujours plus vite, qui sont toujours plus modernes, rutilants, brillants.
Mais qui restent des trains où on fait des rencontres.
Effectivement, mais dans une accélération comme ça.
Qui restent des trains, surtout qui amènent des touristes et des travailleurs dans les provinces périphériques. Et pour siniser les provinces réfractaires.
Yes. Et puis où l'on ne rencontre finalement que des illusions aussi. Ou des illusions portées par des illusionnistes. Hein. Elles en restent belles, ces rencontres. Mais... De la même façon que dans Au-delà des montagnes, on avait vraiment le portrait d'une génération chinoise qui transmet des illusions brisées à la suivante. Là, la génération suivante n'est pas là, mais par contre, on retrouve de la même façon quelque chose de très très cruel sur cette génération des années 90, portée toujours par le regard de cette immense actrice, et il faut en parler, du jeu incroyable de Cao Cao dans ce film.
Oui, c'est vraiment étrange. Elle a un air très neutre, en fait, pendant tout le film. Et pourtant, effectivement, on croit à son personnage et on voit, en fait, transparaître ses émotions alors qu'on a l'impression que son visage ne bouge pas. Mais c'est pour ça que je suis pas forcément d'accord avec le terme mélancolie, c'est qu'il y a une sorte de poésie et de résignation, mais sans la déplorer, ce temps qui change, ou même ce personnage qui dit adieu, oui, à ses belles années, au monde dans lequel elle existait, dans lequel elle rayonnait, sans s'y attacher et sans le regretter, j'ai l'impression. C'est pour ça que le terme mélancolie me gêne, c'est que le personnage reste neutre. Justement, même dans ses belles années, bien sûr, elle le sait que ce sont ses belles années, on voit qu'elle est plus heureuse à ce moment-là qu'à la fin, mais son visage reste le même. Et du coup...
D'autant plus qu'elle parvient d'une certaine façon à reconstruire cet univers temporairement perdu. Non seulement à le reconstruire, mais à en devenir maîtresse. Parce que elle, qui était une nouvelle entrante dans la pègre et qui n'en entre que pour mieux détruire ce qui devrait être le cours de sa vie, c'est aussi par là qu'elle finit par retrouver sa rédemption. Bon, c'est peut-être un peu cryptique pour les auditeurs qui n'ont pas vu le film, mais on veut pas spoiler. Mais effectivement, et encore une fois, c'est ce qu'on disait avec Félix, les choses sont quand même éminemment subtiles, rien n'est noir ou blanc. Et d'ailleurs, le titre anglais lui-même, c'est pour ça que je le précisais au départ, la blancheur la plus pure est celle de la cendre. Il y a peut-être, enfin, toute la subtilité de Jazanke peut être résumée par la maxime que c'est il y a cet attachement au détail qui est porté, oui, par ce jeu magnétique. Oui. De cette actrice.
C'est d'ailleurs l'actrice fétiche de Jia Zhang.
Et son épouse, au demeurant.
Ah.
Et son épouse.
Mais oui, après, et c'est aussi ce qui me plaît énormément dans son cinéma, que ça soit par les visages récurrents qu'on y trouve, mais aussi par cette démarche qu'il creuse patiemment, c'est qu'on est vraiment face à un cinéaste, bon, qui est vraiment l'un des plus grands cinéastes au monde aujourd'hui, mais qui fait partie de ces gens qui construisent une œuvre, qui échafaudent les films les uns sur les autres, et où il y a une cohérence dans son travail depuis 20-25 ans qui est vraiment admirable. Et c'est de cette façon que Les Éternels peut aussi apparaître un petit peu comme une somme, comme un retour sur lui-même, dans la mesure où justement il reprend des plans d'un certain nombre de films, il mélange un petit peu tout ça de façon assez subtile, parce que on s'en rend pas forcément compte. Enfin, je veux dire, moi, il a fallu que je le lise pour le savoir. À voir le film, on se dit pas que ça a été tourné à 15 ans d'écart, les différents plans. Mais ça participe aussi à cette impression de réalisme et de justesse.
Le titre me fait penser, enfin, je sais pas si vous avez noté pour les couleurs, mais enfin, noté quoi. Enfin, moi j'ai été marquée par le fait que ce soit beaucoup plus coloré au début qu'à la fin, et que je trouve qu'on va justement vers le, ouais, vers le terne et vers le noir et blanc. Donc finalement, je me dis peut-être que c'est la cendre qui apparaît, on brûle ce qu'il y avait au début. Enfin bon, là, je m'emballe. Mais j'ai, enfin voilà, je tenais à noter que les couleurs étaient cool.
Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose comme de la cendre qui se dépose sur l'image petit à petit, jusqu'à cette dernière image qui finit par se bloquer sur un écran de vidéosurveillance, comme une annonce de ce qu'est la Chine à la fin du film, vidéosurveillée de toutes parts, et où le personnage finit par se figer dans le flou comme ça. C'est une admirable façon de terminer un film.
Oui, c'est une belle fin.
Bon, est-ce qu'on conseille Les Éternels de Jazanke?
Oui.
Moi, sans hésiter, oui.
Moi, sans hésiter une seule seconde, et puis il faudra en profiter, bien sûr, pour voir ou revoir tout le reste de sa filmographie.
Oui. Si je peux ajouter un dernier truc, je le conseille, mais je conseille aussi tout le reste.
Oui.
Avec.
Et n'hésitez pas, d'ailleurs, à écouter l'émission dithyrambique que nous avions consacrée à Au-delà des montagnes.